Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les oives, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.
C'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Je vous rappelle que cette émission peut être également écoutée sur Radio Larzac. Le 12 janvier dernier, 11 élèves de seconde du lycée Savignac, des filles uniquement, bon, c'est ainsi, présentaient leur plaidoirie pour les droits de l'homme au théâtre municipal, devant une salle comble. Alors, ces plaidoiries ont été présentées dans le cadre du concours national des plaidoiries des jeunes pour les droits de l'homme, organisé annuellement par le Mémorial de Caen. L'une de ses élèves a remporté d'ailleurs 2 prix et vous pourrez l'entendre au cours de cette émission. Ces plaidoiries ont été préparées dans le cadre de l'option littérature et société, sous la houlette de leurs professeurs, Karine Jean, Christine Gamel, Vanessa Despeyrou, que nous remercions chaleureusement pour leur investissement éducatif au service des droits de l'homme. Scolarisation des filles dans le monde, racisme, harcèlement sur les réseaux sociaux, accès aux soins aux États-Unis, problème des clandestins, des enfants ukrainiens, des femmes battues, question de la liberté d'expression en Iran, enfin, ou de l'absence de liberté d'expression, des enfants handicapés, de la discrimination à l'embauche, du harcèlement à l'école. Nos avocates en herbe ont dénoncé avec force conviction ces atteintes aux droits et à la dignité humaine. Félicitations à ces jeunes pour leur travail, pour le choix des sujets, pour leur enthousiasme. En ouverture de la soirée, Guy Cabrit, président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme, déclarait « Cette année, la soirée plaidoirie se déroule dans un contexte très particulier. Dans cette terrible épreuve que traverse notre pays, la notion des droits de l'homme et de défense de ses droits prend tout son sens. Aucune démocratie ne peut accepter de plier face au fanatisme, à la violence, encore moins quand ils sont dirigés contre un de ses piliers, la liberté d'expression. Dans la lignée des valeurs démocratiques et humanistes issues des Lumières, ces plaidoiries permettent à des jeunes de dénoncer librement les droits bafoués. Nous les remercions pour leur réflexion et leur prise de position autour des questions d'actualité. La défense des droits de l'homme et de la paix se fait toujours à visage découvert, contrairement au terrorisme et aux mouvements extrémistes qui avancent masqués et ne montrent que leurs armes. Bien sûr, il nous faudra encore beaucoup d'efforts citoyens pour donner tout son sens et faire vivre pleinement notre devise républicaine qui a rayonné et apporté l'espoir à tant d'hommes et de femmes à travers le monde. Maintenant, Place au poème « Liberté, j'écris ton nom » de Paul Éluard, que les élèves avaient préparé en hommage à ceux de Charlie et pour la défense de la liberté d'expression et de la liberté tout court.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom.
Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des souvenirs, j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des Mantes, j'écris ton nom.
Sur la mousse et les nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom.
Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom.
Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom.
Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom.
Sur le tremplin de la porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom.
Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur le mur de mes ennuis, j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom.
Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer.
Liberté !
Alors nous allons entendre deux premières plaidoiries. Celle de Clara Vandéroux sur le thème de la discrimination à l'embauche. Et ensuite celle d'Inès Laumont sur l'accès aux soins aux États-Unis, en particulier les problèmes d'accès aux soins aux États-Unis. Et ensuite, nous entendrons Gaby Da Silva qui a remporté deux prix lors du concours national des plaidoiries des lycéens au mémorial de Caen.
Selon une enquête récente du magazine L'Express, 3 salariés sur 10 sont victimes de discrimination au travail, qu'elles soient liées au sexe, à l'âge, à la nationalité, à l'appartenance ethnique, au handicap ou même à la grossesse. Une situation inacceptable que Clara dénonce dans sa plaidoirie intitulée « Avoir la tête de l'emploi ».
Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de la discrimination à l'embauche. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'il est important de ne pas oublier que nous, lycéens, allons être confrontés au monde impitoyable du travail, que certains d'entre nous seront sans doute victimes de cette injustice à cause de certaines différences. Être différent. Mais qu'est-ce qu'une différence pour nous ? Ne pas faire partie des dites normes ? Et les normes, c'est quoi ? Une limite mise en place par nos idéaux ? Eh bien, cela ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup trop de demandeurs d'emploi se voient refuser un travail pour une sélection à critères indécents, tels que le physique, la nationalité, l'âge, le sexe, ou même le nom. Trop gros, trop typé, trop banal, trop lourd, trop maigre. Ces simples exemples, vous les connaissez, j'en suis sûre. Mais nous les répéter, nous ferons peut-être réaliser notre bêtise. Monsieur Edine Mohamed est français, d'origine étrangère. Il vit à Lyon. Il est diplômé en expertise comptable. Bien que jeune, il suffit aussi d'expérience probatante, notamment dans un grand cabinet international. Monsieur Tellier adresse le 7 janvier 2014 une candidature à offres multiples de postes. 4. De collaborateur comptable diffusée directement sur un grand site de recrutement lyonnais. Le lendemain, Mohamed reçoit une réponse négative de ses 4 candidatures, motivée par le fait que son profil ne correspondait pas aux charges du client. Mohamed est alors pris d'un doute. Il adresse alors une nouvelle candidature, en modifiant la forme de son CV, en le rendant aussi moins riche d'une expérience, mais surtout en modifiant son nom, pour le rendre bien ordinaire. Jean Dupuis, rien que ça. Quelques heures plus tard, Mohamed est contacté par ce cabinet. Et après un entretien téléphonique de premier contact, un entretien lui est proposé. Cela ne vous révolte pas? Eh bien, moi, si. Parce qu'après tout, qu'est-ce que cela nous change à nous? Il est différent, peut-être, mais comprenons-le, ou du moins faisons l'effort d'essayer. Il pourrait être d'une gentillesse immense, que nous ne verrions encore que par l'origine, ou même le physique. Il y a de quoi se remettre en question après cela. Moi, je pense que nous, à sa place, nous serions dépités, anéantis. Eh bien, lui, l'était. Il n'est pas rationnel qu'à notre époque, il y a encore autant d'a priori, selon une simple apparence. Mais si vous, vous ne trouvez pas d'emploi pour des raisons superficielles, trop brun, trop blond, trop blanc, cela vous révolterait? Non? Alors pourquoi? Pourquoi faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse? Nous revenons-en peut-être à quelques chiffres pour que vous nous preniez bien conscience de la situation. Par exemple, l'association Montpellier-Rennes face à l'Hérault a interrogé une 40aine d'entreprises, pour la plupart languedociennes, à l'an 2012. Les résultats? Les répondants sont soumis à certaines exigences. 51% de la clientèle. Par ailleurs, les recruteurs seraient 33% à considérer le critère du poids et de la taille comme primordiaux à l'embauche. Chose moins étonnante, le style. Qu'il s'agisse de vêtements, de tatouages ou encore de coiffures, serait un élément décisif pour 100% des personnes interrogées. Mais pour 83% d'entre elles, le physique serait plus important pour la femme. Rien que pour ce secteur-là. Alors imaginez-le à l'échelle de la France. Eh bien, imaginons-le ensemble. Des centaines de personnes au chômage, qui ne sont pas parfaites, ou même un peu trop, qui se voient à la rue, ou toujours chez leurs parents, parce qu'elles ne sont pas comme elles devraient l'être pour nous. Mais expliquez-moi une petite chose. Si le serveur, le commerçant, ou encore le livreur ne fait pas partie de vos types de personnes, cela doit changer quelque chose à votre consommation ou achat? Ok. Votre porte sonne, vous allez ouvrir. Un homme se présente à vous, assez petit, gros. Il ne fait pas partie de vos idéaux, mais pourtant. Bonjour, voilà votre commande à l'état habituel. Vous allez faire quoi? Inventer un prétexte disant que c'était pour la maison d'à côté? Les enfants font ça. Telle personne a touché telle chose, alors il ne faut en aucun cas la toucher à son tour. C'est la règle. Sinon, on est fui comme la peste. Mais nous sommes des personnes matures, non. Pas des enfants de 10 ans. Alors pourquoi ferions-nous cela? Mettons-nous à leur place? Parce que c'est indécent de savoir qu'un physique sera davantage pris en compte que nos études supérieures. Moralement, c'est un combat. Les jours se suivent, mais intérieurement vous êtes détruits. La confiance n'est plus là. Pour une simple raison. On ne peut pas changer ce que l'on est. Mais comment lutter? Notre nationalité, ou même notre origine, personne ne l'a choisie. Alors dans votre tête, tout défile. Excusez-moi, mais vous ne correspondez pas au profil demandé. Vous n'avez pas les qualités requises. Cela vous fait tellement mal. Parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas la vérité. Que la vérité, vous la voyez dans votre miroir, le matin, sur votre carte d'identité, ou même dans le regard des gens. Lorsqu'on a dit aimer une personne pour son apparence physique, c'est comme aimer un livre pour sa reliure. C'est beau, mais c'est facile. Les grands discours sont faciles, mais à quoi nous servent-ils si on ne les applique pas? Vous savez, je pourrais continuer sur ce sujet encore longtemps. vous gardez cloué à vos chaises avec des centaines d'exemples et de chiffres impressionnants. Mais le changement ne se fait pas comme ça. Alors réfléchissez-y et demandez-vous si à votre tour, vous, vos proches, avez la tête de l'emploi.
Pour nous, en France, aller chez le docteur est une habitude, une formalité, grâce à la sécurité sociale créée par le Conseil national de la Résistance en 1944. Inès s'est intéressée à l'accès aux soins aux États-Unis, seconde puissance mondiale, avec sa plaidoirie intitulée « Allô docteur, l'oncle Sam est malade ».
L'Amérique, immense territoire officiellement découvert par les Européens en 1492. Territoire colonisé et peuplé par les populations venues de plusieurs pays d'Europe. Ce nouveau monde nous a toujours attirés et subjugués. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale au XXe et début XXIe siècle. Quel beau pays, les États-Unis. Le rêve américain est encore très présent, partout. Mais ce pays qui nous fait tant rêver est-il vraiment un Eldorado ? Armes en vente libre, racisme, pauvreté font également partie de la réalité de ce pays. Oui, le rêve américain peut se transformer en cauchemar pour une bonne partie de sa population, en particulier pour ceux qui tombent malades. Dans ce pays si riche, si développé, tout le monde n'a pas le droit à la santé. Chaque citoyen doit assurer lui-même sa couverture santé et s'il n'en a pas les moyens, il ne pourra pas se soigner. Selon l'article 25, alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux. Les États-Unis sont le seul pays industrialisé à ne pas garantir une couverture santé à tous les citoyens. En octobre 2009, le reportage intitulé « Les États-Unis ont mal à leur système de santé » affirme qu'un Américain meurt toutes les 30 minutes, faute d'avoir une couverture maladie, donc faute d'avoir reçu les soins nécessaires pour se soigner. On voit une initiative prise dans l'État du Tennessee. Les habitants d'une toute petite ville de campagne bénéficient d'un week-end de soins gratuits à l'initiative de la municipalité sur l'idée de Stan Brook, membre de la police municipale. Plus de 400 personnes se sont présentées devant le gymnase afin de bénéficier des soins. Plusieurs d'entre elles étaient prêtes à attendre toute la nuit pour enfin atteindre le bureau improvisé du dentiste et ainsi soigner la rage de dents qu'elles ont depuis plus de 3 mois. Certaines ont même attendu dans le froid, au milieu du parking. La situation pouvait faire penser aux images de réfugiés en temps de guerre qui attendent de l'aide dans les camps installés le long des zones de conflit. Mais ici, il n'y a pas de guerre. Ce pays est en paix. Aux États-Unis, l'État et les employeurs privés n'assurent aucune couverture médicale. Pour les Américains, avoir une assurance signifie qu'on se la paie soi-même. Et cela peut coûter très cher. Une assurance maladie coûte en moyenne 1 000 $ par mois, soit environ 800 euros. C'est sans doute la raison pour laquelle, sur 300 millions d'habitants, seuls 180 millions sont assurés pour leurs dépenses médicales. Donc, presque la moitié de la population des États-Unis ne peut se soigner correctement. Le phénomène ne touche pas seulement les zones isolées, comme l'exemple du Tennessee. Les populations concernées le sont aussi en ville. Direction Nashville, toujours dans le Tennessee, où un habitant sur 3 n'est pas couvert par une assurance santé. Ceci, même s'il occupe un emploi. Nous rencontrons Randy, propriétaire d'un garage. Il explique que lorsqu'il a monté son affaire, sa femme, pour l'aider, a abandonné son emploi, donc sa couverture médicale. Or, 2 mois après avoir quitté son emploi, le diagnostic tombe. Elle a un cancer du côlon. Impossible pour elle d'avoir les soins appropriés. Elle n'a plus d'assurance et sa maladie fait effet repoussoir pour les éventuels assureurs qu'elle a pu contacter. Elle a donc dû payer. En rémission, elle a contacté à nouveau une compagnie d'assurance qui lui a répondu qu'il fallait attendre encore 5 ans pour pouvoir avoir une couverture. Elle a attendu. 5 ans ont passé. 10 ans. 10 ans sa couverture santé pour une personne qui a eu un cancer. Son état de santé demande des examens et bilans réguliers qu'elle a dû payer au prix fort. Dans un pays tel que celui-ci, riche, éduqué, à la pointe des recherches technologiques et scientifiques, on peut mourir par manque de soins. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'assurance maladie. La santé y figure comme un bien de consommation. Si on n'a pas d'argent, on n'y a pas droit. Une assurance maladie est donc payante, mais les Américains qui ont le moyen de se payer cette assurance sont-ils vraiment couverts en cas de maladie? Le réalisateur Michael Moore, qui s'intéresse aux questions de société telles que la vente d'armes ou la malbouffe, s'est interrogé sur le système de santé dans un document intitulé SICO. Il y aborde les problèmes liés au contenu des contrats d'assurance maladie. En fait, une assurance maladie de base aux États-Unis ne couvre que très peu des dépenses. Elle les minimise et refuse la plupart des examens médicaux. Elle mène des enquêtes sur leurs clients dès qu'un examen de santé est demandé. Dès qu'elle trouve une faille dans la déclaration préalable du client, elle s'en sert pour refuser le remboursement de l'examen ou bien pour mettre fin à leur contrat définitivement. Cela est fréquent lorsque le client est atteint d'une maladie grave qui demande des soins spécifiques et coûteux. L'ennui, c'est que dès qu'une compagnie d'assurance a mis fin à votre contrat, il est très difficile d'en trouver une autre, puisqu'il y a enquête, et donc relation entre les diverses compagnies d'assurance. Autrement dit, même si vous êtes assuré, ne soyez pas malade. Bien sûr, le gouvernement américain n'est pas insensible à cette situation et se penche sur le problème depuis des années. Beaucoup de tentatives de réforme ont été menées depuis les années 60. Hillary Clinton, alors qu'elle occupait la Maison-Blanche aux côtés de Bill Clinton, président des États-Unis, a proposé une réforme du système de santé qui se rapproche du système français. Cela comprenait une couverture sociale minimum assurée par l'État au moyen de cotisations. La classe politique s'est opposée à cette proposition au motif que l'État n'avait pas à s'immiscer dans la vie privée des gens. Bien que la guerre froide ne soit plus d'actualité à ce moment-là, la peur d'un système se rapprochant du modèle communiste soviétique était encore bien présente dans l'esprit de très nombreux Américains. Alors, on laisse mourir les citoyens. Barack Obama, actuel président des États-Unis, a lui aussi tenté de réformer le système de santé. Il a mis en place une réforme qui est nommée Obamacare. Le problème, c'est que les résistances provoquées par l'idée même d'une réforme sont tenaces. Une des craintes évoquées par les Américains est celle d'une hausse des impôts qu'ils trouvent déjà trop élevée. En fait, on peut constater que le système américain n'est pas basé sur la solidarité. Donc, il est très difficile d'introduire brusquement une forme d'impôt solidaire afin de mettre en place une couverture santé minimum pour tous les citoyens américains, à l'image de ce qui peut exister en Europe. Le plus choquant, c'est que les structures de santé, hôpitaux, nombre de médecins, ne sont pas défaillants aux États-Unis. À l'heure actuelle, la réforme du système de santé n'est toujours pas accomplie. Et 200 000 personnes meurent chaque année parce qu'elles ne sont pas prises en charge par une assurance maladie. Nous sommes ici confrontés à une situation paradoxale. Alors que les États-Unis représentent la plus grande démocratie du monde, que dans leur constitution, ils garantissent la plus grande liberté à leurs citoyens, nombre d'entre eux ne peuvent accéder à la santé, faute de moyens pour se payer une assurance. Doit-on, dans un pays aussi développé que celui-ci, laisser un domaine tel que la santé de ses concitoyens être transformé en bien de consommation? Est-il juste qu'une personne meure parce qu'elle n'a pas l'argent suffisant pour se soigner? Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que la santé est un droit fondamental. Elle doit être garantie à tous les êtres humains. Il n'y a rien de plus inacceptable que de mourir dans un pays développé dont les structures de santé sont performantes parce qu'on n'a pas les moyens financiers de se soigner. Allô docteur, l'oncle Sam est malade. Qu'est-ce qu'on fait?
Après une pause musicale, vous allez entendre Gaby Da Silva qui plaide sur le sujet de la scolarisation des filles dans le monde. Gaby Da Silva, que nous félicitons, a remporté 2 prix au concours national au Mémorial de Caen, le prix de l'engagement citoyen et le 2e prix général du concours national des plaidoiries.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or
as aujourd'hui?
Monsieur Gazan, t'écoute. Forme de castor.
Well, it's been a long time, long time.
Sur CFM pour l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, émission Urgence, urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Aujourd'hui, nous vous faisons entendre les plaidoiries pour les droits de l'homme réalisées par des lycéennes du lycée Raymond Savignac à Villefranche-de-Rouergue. Et tout de suite, vous allez pouvoir écouter Gaby Da Silva pour une plaidoirie sur le thème de la scolarisation des filles dans le monde. Nous félicitons Gaby Da Silva, qui a remporté 2 prix à Caen, le prix de l'engagement citoyen et le 2e prix général du concours national des plaidoiries. Après Gaby Da Silva, vous entendrez Soline Renaud, qui vous parlera d'un thème qui est très actuel, le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Albert Einstein a dit « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. » C'est ce que fait Gaby, qualifiée pour la finale nationale du concours de plaidoirie qui se tiendra à Caen le 30 janvier prochain. Elle aborde la scolarisation des filles dans le monde à travers différents exemples et s'inspire de son histoire familiale pour transmettre son message. Sa plaidoirie s'intitule « L'enfant s'appelle à venir ».
Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de Rosa. Elle est née dans un petit village en Espagne, dans le milieu des années 30. Rosa a eu la chance d'aller à l'école pendant quelques années. Elle n'aurait manqué un jour d'école pour rien au monde. Hélas, à 14 ans, elle doit partir étudier dans la ville la plus proche, et c'est impossible. Sa famille n'en a pas les moyens. Pour elle, le rêve s'arrête. Pour moi, c'est le début de ma plaidoirie. Rosa était ma grand-mère. Elle a toujours défendu l'école. À mon tour de le faire maintenant. Pour elle, mais surtout pour nous tous. Ici. Aujourd'hui, dans le monde, ils sont 5 millions d'enfants à ne pas avoir accès à l'éducation, dont plus de la moitié sont des filles. Le 7e principe de la Déclaration des droits de l'enfant annonce que tout enfant a le droit à l'éducation gratuite. 2006, Afghanistan. Il s'appelait Malim Abdulhabib. Il avait 45 ans. 8 ans déjà qu'il est mort. Son crime ? Avoir été le proviseur d'une école. Pas une simple école. Il a été décapité par les talibans qui n'acceptaient pas la présence de jeunes filles dans son établissement. Lui a eu le courage de dire non. L'aurions-nous eu, nous ? 2012, Pakistan. Une jeune fille de 15 ans veut étudier. Le 9 octobre, elle se prend une balle dans la tête, mais elle sera sauvée. Vous avez tous bien évidemment reconnu la plus jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Malala, jeune fille qui elle aussi se bat pour l'accès à l'éducation des filles dans le monde. Aujourd'hui, elle poursuit son chemin dans d'autres pays que le Pakistan pour dire et dénoncer cette situation. Elle aussi en a le courage. 2014, Nigeria. Peut-être ne les retrouvera-t-on jamais. Qui donc ? Ces 220 jeunes filles kidnappées le 14 avril. Aujourd'hui, 273 jours que nous ne savons plus et que les jours continuent de passer. L'actualité passe aussi, alors les médias oublient. Pourtant, ces jeunes Nigériennes méritent qu'on pense à elles. Nous pourrions être l'une d'entre elles. Mais où sont-elles? On ne sait pas. Dans quelles conditions? On ne sait pas non plus. Sont-elles encore en vie? Selon les vidéos, oui. Mais dans quel état les retrouverons-nous, si nous les retrouvons? Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas dans son article 3 que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne? Et moi, j'ai le droit de ne pas les oublier. J'ai le droit de répéter les jours qui défilent. 274, 275, 276. Jusqu'à quand vais-je compter? Et je compte. 277, 278, 279. Et je continuerai à compter. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas non plus que les politiques oublient leur promesse de les ramener. Bring back our girls. Mesdames et messieurs, voilà un homme et des jeunes femmes qui se battent ou qui se sont battues pour leurs droits. Chaque année, des personnes luttent. Des personnes anonymes se battent pour défendre l'école. En 60 ans, qu'est-ce qui a changé? Et nous, ici, en France, que faisons-nous de l'école? Avons-nous oublié son importance? Nous comptons les jours de nos vacances. Nous nous demandons pourquoi tant d'heures de classe. Nous nous réveillons mollement le lundi matin. Nous ne serions même plus. Nous n'avons plus envie. Et pourtant, ailleurs, en Amérique latine ou en Asie, ils comptent les jours où l'école a dû être fermée. Ils font des kilomètres à pied pour y accéder. Ils se réjouissent de revoir leur maître d'école. Ailleurs, encore, des enfants sont obligés d'aider leurs parents, de réaliser des tâches ménagères, de garder leurs petits frères, de travailler en oubliant leur dignité. Ailleurs aussi, des petites filles sont mariées très jeunes, trop jeunes, et ne peuvent plus aller à l'école. L'école, qui signifie pour elles un avenir meilleur, une meilleure vie. Elles ne seraient plus esclaves de leur famille, ni de leur futur mari. Grâce à l'école, elles deviendront médecins, avocates, maîtresse d'école ou bien infirmière. Car c'est l'école qui forme, qui façonne l'être humain. Accéder à une éducation de qualité permet de dire non à la maltraitance, à l'exploitation. Selon l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme. Pour cela, l'être humain, quel que soit son pays, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa religion, doit réagir. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le devoir de le dénoncer. Mesdames et messieurs, nous avons tous le devoir de le dénoncer. Car une Malala ne suffit pas. Car un Malim Abdoulabine ne suffit pas. Car 220 jeunes filles ne suffisent pas. Car nous devons tous être ensemble pour qu'un changement puisse s'opérer. Et quand je vous dis cela, je pense à Nelson Mandela qui a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Mesdames et messieurs, l'éducation est transmission. Et c'est parce qu'un jour, ces jeunes filles instruites deviendront à leur tour des mères qu'il faut que l'école soit accessible à ces mêmes jeunes filles. Ces mères de demain feront avancer le monde. Ces mères de demain feront des enfants instruits qui traceront leur propre chemin. Ce chemin sera sûrement long et difficile, mais si aujourd'hui les jeunes filles sont à chaque fois plus nombreuses à aller à l'école, c'est l'humanité qui en profitera demain. Il faudra peut-être du temps. De nombreuses lunes traverseront le ciel, lit-on dans le livre de Viviane Amasa qui raconte l'histoire de Malala. La vie des jeunes filles changera le monde. Les enfants qu'elles mettront au monde ne seront plus jamais seuls. Ils auront le savoir avec eux. Savoir qui fera d'eux des hommes. Je ne peux m'empêcher de penser à ma grand-mère, elle, qui dans les années 40 s'est battue pour aller à l'école, pour que ma mère puisse y aller à son tour. C'est grâce à cette chaîne que je suis devant vous ce soir pour défendre la scolarisation des filles dans le monde. Enfin, pour finir, je vous laisse méditer sur ces quelques mots de Victor Hugo. L'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom? L'enfant s'appelle Avenir.
Les dangers d'Internet sont sous-estimés par une grande majorité des utilisateurs. Or, leurs conséquences peuvent être terribles. Soline s'est tout particulièrement intéressée aux réseaux sociaux et à leurs dangers, et vous délivre ce soir des conseils pour se protéger sur la toile dans sa plaidoirie intitulée « Ne laissez personne violer votre identité ».
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, parlons d'Internet et les réseaux sociaux. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous les trouvez tellement merveilleux qu'ils vous occupent la plupart de votre temps libre. Il y en a beaucoup, dont Facebook, Twitter et Ask. Ces réseaux sociaux, où l'on peut faire tout ce que l'on veut, poster toutes les photos que l'on veut, celles où on est avec notre amoureux ou même notre meilleur ami. Ces photos qui marquent l'instant merveilleux où elles ont été prises. On peut également écrire tout ce qui nous passe par la tête et on peut même recevoir des questions anonymes. Ces sites qui nous permettent de rester en contact avec des amis proches qui n'habitent pas forcément la même région que nous. Certains jeunes prennent ces réseaux sociaux comme un journal intime. Mais le saviez-vous que ces réseaux sont responsables de la plupart des suicides chez les adolescents? Ce phénomène touche les adolescents âgés entre 13 et 16 ans. Comme je vous l'avais dit précédemment, ces réseaux sociaux ne sont pas d'une sécurité totale. En France, 40% des élèves disent avoir été victimes d'une agression ou méchanceté, de l'exclusion d'un groupe social en ligne, de problèmes sur un chat. La plupart des adolescents ne sécurisent pas assez leur compte et acceptent des personnes qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils ne devraient pas. Ces réseaux sociaux qui occupent les adolescents presque 24 heures sur 24, ceux dont on parle souvent dans les infos, car des adolescents inconscients du danger sur Internet se suicident après avoir subi du harcèlement. Mais pensez-vous qu'Internet n'est pas vraiment dangereux? Pensez-vous que l'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que nous ne sécurisons pas assez nos comptes et que nous ne sommes pas conscients du danger qui court sur Internet. J'ai entendu en France un témoignage d'une femme. Celle-ci était militaire dans la marine. Elle avait un compte Facebook et y avait partagé, comme la plupart des gens, des photos d'elle en vacances avec sa famille. Peu de temps après, elle reçoit un appel de son frère très choqué qui lui explique qu'il a vu une photo d'elle dénudée sur Internet. Elle a donc cherché sur Internet et a découvert plusieurs photos d'elle qui étaient des montages. Un inconnu avait collé des photos de sa tête sur des corps dénudés ou presque. La gendarmerie a donc fait une enquête et découvert que d'autres collègues féminines avaient été victimes de la même situation. 39 femmes au total. Les gendarmes ont pu découvrir de quel ordinateur étaient postées les photos et donc pu remonter jusqu'au coupable. Celui-ci était un collègue de la jeune femme. Elle le croisait chaque jour sans savoir qu'il s'amusait avec les photos qu'elle postait sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils étaient collègues et amis sur Facebook. Un article sur France Info nous explique que cette histoire a eu lieu en 2009. En février 2010, une plainte a été déposée. Les chefs d'accusation sont nombreux. Diffusion de montages portant atteinte à la présentation de la personne, diffusion de messages violents ou pornographiques, agression sexuelle, collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux. Le militaire à l'origine du scandale encourt jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 12... Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Je vous indique bien qu'il est interdit par n'importe quel moyen de violer la vie privée des autres. Il est interdit de diffuser des photos sur Internet sans l'accord de la personne concernée. Cet article montre bien que les agissements du militaire étaient contraires à la loi. Il a clairement violé la vie privée de la jeune femme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez vigilants. Sur Facebook, pensez à bien paramétrer vos comptes. Pensez à laisser uniquement vos amis voir vos photos. N'acceptez que les gens que vous connaissez vraiment. Ne vous faites pas avoir par des inconnus. Sur Twitter, protégez vos tweets pour qu'ils ne soient pas publics. Et sur Ask, refusez les questions anonymes. Je vous conseille d'aller visiter le site CNIL. Il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui peut vous donner des informations pour sécuriser vos comptes, pour maîtriser la publication de vos photos et d'autres choses. Je vous en supplie, écoutez-moi pour votre sécurité. Préservez vos données. Refusez les demandes de personnes inconnues. Sécurisez votre mot de passe. Les conséquences peuvent être terribles. Ne laissez personne violer votre intimité.
Coco, Rosie, in session.
Thank you.
Donc vous êtes sur CFM pour l'émission Urgence, émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, Urgence pour les droits, Urgence pour les libertés. Vous entendez aujourd'hui les plaidoiries des lycéens du lycée Raymond Savignac, plaidoirie pour les droits de l'homme, plaidoirie préparée dans le cadre du concours national des plaidoiries des lycéens pour les droits de l'homme organisé chaque année par le Mémorial de Caen. La dernière plaidoirie que nous allons vous faire entendre est une plaidoirie de Marine Lachon qui traite de la question des enfants handicapés.
On recense en France plus de 5 millions de personnes handicapées, environ 10% de la population. Longtemps, les familles ont été livrées à elles-mêmes pour s'occuper de leurs enfants, pas comme les autres. Si des progrès sont notables depuis la promulgation de la loi handicap en 2005, Marine tient à nous alerter sur les difficultés et les obstacles que les familles rencontrent encore aujourd'hui. Écoutons sa plaidoirie intitulée « Tous les enfants sont comme les vôtres ».
Quoi de plus beau que l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille? On prépare l'arrivée de bébé, on choisit la couleur des murs de la chambre, le prénom qu'on va lui donner. Certains désirent connaître le sexe de leur enfant, d'autres préfèrent avoir la surprise. Mais quelle surprise, celle d'avoir un enfant différent. Mais quelle angoisse quand la différence est celle d'un handicap. Le problème, c'est que ce genre de drame, ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on pourrait le croire. En France, on compte 3,5 millions de personnes handicapées, dont 2 millions souffrant d'un handicap sévère. 700 000 d'entre elles se trouvent en situation de handicap mental, ce qui représente 20% des personnes handicapées. Et chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants naissent avec un handicap mental qui les empêchera d'être totalement autonomes en grandissant. Alors dit comme ça, comparé aux chiffres d'autres maladies, effectivement, pour certains, cela peut paraître peu. Mais demandez à une de ces familles qui vit avec une personne handicapée au quotidien, si ce n'est déjà pas trop. Et c'est pour aider ces familles au quotidien difficile que des centres prenant en charge des handicapés mentaux ont été créés en France et ailleurs, pour permettre aux familles de souffler, de se dire que des personnes responsables, possédant une formation, vont aider leurs proches à avancer. Mais derrière ces murs, ces grands bâtiments où tout a l'air si parfait et si serein, qui ne nous dit pas que des délits ne sont pas commis, que la loi n'est pas respectée, et que le rêve de toute famille d'intégrer leur enfant dans un de ces centres ne peut pas vite virer au cauchemar et faire objet de maltraitance. Comment imaginer que des personnes souffrant déjà de troubles psychologiques peuvent être victimes d'une forme de maltraitance? Je me souviens encore d'un reportage diffusé l'an passé. Celui-ci est intitulé « Enfants handicapés, révélations sur les centres qui les maltraitent ». Ce reportage nous révèle des images insupportables dans lesquelles on peut voir des enfants attachés, enfermés dans des cages de verre, lavés en groupe, garçons et filles mélangés, sans aucune intimité. Des scènes montrent des éducateurs menaçant les enfants de ne plus voir leurs parents. Je cite « Papa, maman, c'est terminé ». Ou bien « La prochaine fois que tu racontes des choses sur les éducateurs, ça va mal se passer entre nous ». Comment des adultes responsables peuvent-ils menacer des enfants? Des enfants d'à peine 10 ans qui sont victimes de troubles mentaux. Cela est incompréhensible. Mais la scène la plus choquante reste celle où une adolescente de 15 ans, atteinte d'autisme sévère, est attachée sur un lit, avec une ceinture qui ne doit être utilisée qu'en cas de crise, alors que celle-ci est très calme. Elle est comme dans un état de transe. Elle n'arrive pas à retenir sa salive. Elle a été bourrée de médicaments dont les doses étaient trop élevées pour son cas. Cette scène a été filmée par les parents lors d'une visite à leur fille. En regardant les images, le père pleure, culpabilise d'avoir mis sa fille dans cet établissement qu'elle croyait avoir mis en sécurité. Quand elle a retrouvé son enfant qu'elle croyait avoir mis en sécurité, presque inconsciente, sur un lit, à attendre la fin de la journée. Malheureusement, cet épisode n'est qu'un échantillon de la maltraitance que font subir les éducateurs à ces enfants. Bien sûr, il y a des centres exemplaires qui sont tout à fait dans les normes, mais pour ceux qui ne le sont pas, cauchemar est le mot approprié pour désigner le quotidien de ces enfants, qui sont douchés dans des lavabos et sont obligés de faire leurs besoins dans des seaux, tels des animaux, alors que d'autres enfants dorment à côté. Des animaux, c'est comme ça que sont traités ces enfants handicapés. Certains, par manque de place, sont enfermés dans des cages de verre toute la journée. Des cages qui ne doivent être utilisées qu'en cas de force majeure. Ils grattent à la porte, tels des chiens. Et cela constitue une atteinte à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourtant, les éducateurs font vivre ça tous les jours à ces pauvres enfants. Mais n'est-ce pas un peu facile de dire que la faute est celle des éducateurs, quand on sait que ce n'est pas eux qui choisissent de prendre en charge l'enfant ou non? Je ne pense pas. Car même si cette violence et ces actes n'ont pas lieu d'être et sont une atteinte à la Déclaration des droits de l'enfant, qui signale que les enfants handicapés ont droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux, il est compréhensible que ces personnes perdent le contrôle à un moment donné ou à un autre. Car l'être humain n'est pas une machine qui peut répéter le même travail sans cesse, sans fatigue, sans épuisement, sans à un moment donné craquer. Ces faits sont expliqués par le nombre de personnes internées, beaucoup trop important comparé à celui des éducateurs. Ils sont donc obligés de prêter moins d'attention à l'enfant, jusqu'à en oublier qu'ils sont là pour ça, pour aider cet enfant en difficulté et veiller à ce qu'il se sente bien afin de progresser. Des reproches leur sont évidemment faites vis-à-vis de leur attitude. Mais ne vous doutez-vous pas que le directeur, qui est responsable du sureffectif, puisse remédier à cette situation? Pourtant, il faudrait y remédier, car un tel comportement est une atteinte à un article de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Les États s'engagent à garantir à chaque enfant la jouissance de ses pleins droits, sans discrimination ni distinction d'aucune sorte. Cet article devrait nous faire réagir et nous demander si le fait de convaincre le directeur d'interner moins d'enfants afin que le personnel puisse mieux y consacrer son temps n'est pas une solution. Des personnes ont déjà tenté, mais en vain. La réponse est à quelques mots près, toujours la même. Chaque enfant que nous prenons en charge, c'est une pension de plus, une pension qui n'est pas négligeable. Alors comment faire? Peut-être allez-vous dire, pourquoi les parents ne font-ils pas des recherches pour savoir quels sont les bons centres et ne les placent-ils pas à l'intérieur? La réponse est simple, aucune de leurs demandes n'est acceptée, car ces centres sont complets et les listes d'attente que tiennent scrupuleusement à jour la majorité d'entre eux sont consultées par aucune autorité. Une famille a envoyé 24 demandes dans 24 centres différents. Elles ont toutes été refusées. Ce n'est pas normal. L'État certifie qu'il accorde l'aide appropriée et assure la mise en place d'institutions qui veillent au bien-être des enfants. Mais comme les centres ne respectent pas cette loi, la famille se doit obligée de prendre le premier centre proposé ou bien de se retrouver avec l'entière responsabilité de l'enfant. Comme c'est le cas d'une mère dans le reportage. Elle témoigne, car à cause de ce quotidien trop lourd à supporter et la responsabilité de son enfant 24 heures sur 24, elle a craqué et a tenté de tuer son enfant alors qu'il dormait. Puis, elle s'est rendue compte du geste qu'elle était en train de commettre et s'est résignée. C'est pour ça qu'il est nécessaire de créer de nouveaux centres pour personnes handicapées en France. L'État ne peut pas laisser l'entière responsabilité aux parents d'élever leur enfant souffrant de troubles psychologiques, car arrivera un moment où la famille ne pourra plus le supporter. Les pouvoirs publics d'un pays comme la France ne peuvent pas non plus se désintéresser du sort de ses enfants. Dans des centres où ne seraient pas respectés les plus élémentaires fondements des droits de l'enfant. C'est tout simplement indigne de la nation qui a vu naître les droits de l'homme, dans lesquels l'article 1er précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, sans distinction d'aucune sorte. Alors, sauf à admettre que les handicapés ne sont pas des êtres humains comme les autres devant la loi, personne dans ce pays n'a le droit de bafouer leurs droits. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'on peut juger du degré d'avancement d'une société à la façon dont elle traite les plus fragiles et les plus vulnérables de ses membres? Voilà qui devrait nous engager à réfléchir et faire du traitement du handicap dans notre pays un véritable enjeu de société. Car, ne l'oublions pas, tous les enfants sont comme les vôtres.
On se retrouve le mois prochain pour la suite des plaidoiries. Nous entendrons les 6 dernières plaidoiries. C'était urgence, urgence pour les droits, urgence pour les libertés, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, qui est diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Une émission que vous pouvez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous. J'espère que vous avez apprécié les plaidoiries des lycéens, leur maturité et le travail qu'ils ont accompli. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés, la solidarité. Refusons le racisme et l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Il y a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans sous les sans, sur les sans pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier, y'a les oufs, les oives, les toqués, toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.